Bonjour à tous et bienvenue sur le mug numéro 48. Nous sommes le 28 novembre 2019 et on démarre tout de suite. On accueille notre deuxième sponsor spécial de semaine Black Friday, Deal Labs. Avec Deal Labs, vous allez pouvoir découvrir plein de choses, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que je voulais vous dire dès le début, c'est qu'avec Deal Labs, vous allez pouvoir gagner des AirPods Pro, un casque Bose 700 et une enceinte Sonos SL. Et tout ça, c'est très simple à faire. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y aura en dessous de cette vidéo. Et c'est à moi d'apparaître. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi, que vous avez la pêche, que tout va bien. J'ouvre mes articles, on va pouvoir commencer tout de suite les news. Et les news ce matin, eh ben, il y a pas mal de choses dont il faut qu'on parle ce matin ensemble. Et on va commencer avec Apple. Apple qui aurait fait un truc là qui commence à faire vraiment grincer des dents. C'est pas la première fois que ça arrive. Ça n'arrive pas qu'à Apple. Mais ça montre le problème effectivement de Internet qui est un dispositif mondial et des pays qui ont des lois et des manières de faire. Et que ça marche pas toujours très très bien ensemble. Là, ça concerne la Russie, ça concerne la Crimée. Je vais pas vous refaire un petit cours d'histoire récente, mais la Russie estime que la Crimée, c'est à eux, ce qui est largement contesté à travers le monde. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec Apple? Aujourd'hui, quand vous ouvrez Apple Maps et que vous êtes en Russie, la Crimée s'affiche comme un territoire russe. Si vous êtes en dehors de la Russie, la Crimée s'affiche comme un territoire autonome. Donc, Apple aurait adapté. C'est pas la première fois que ça arrive parce qu'on sait que Apple a également enlevé l'émoticône de Hong Kong quand on est à Hong Kong. Pour éviter effectivement, en fait, alors c'est pas Apple qui décide de faire ça. Apple se plie aux lois des pays. En Russie aujourd'hui, et a priori, d'après l'article, Apple aurait vraiment essayé de faire un bras de fer avec la Russie sur ce sujet-là. La Russie a tenu bon, en gros, en disant à Apple, soit vous mettez la Crimée en Russie dans Apple Maps, soit vous dégagez de la Russie. Alors, on va repartir sur tous les débats. On les a eus avec Google, on les a eus avec Facebook, on les a avec Apple. Est-ce qu'une entreprise qui fait du business dans un pays doit... Alors, c'est là où je vais juste shifter le débat pour qu'on évite de tomber, on va dire, dans du manichéisme. OK. Aujourd'hui, Apple, quand Apple fait des choses en France, on attend qu'Apple suive les lois françaises. Je vais donner un exemple, bon, c'est un peu extrapolé, mais juste. La France considère, par exemple, que la Corse fait partie du territoire français. Il y a certains Corses, et on le sait, qui considèrent que la Corse ne fait pas partie de la France. Si Apple, imaginons hein, que ces Corses qui estiment que la Corse ne fait pas partie de la France, disent à Apple, oui, non, mais non, la Corse, tu dois la mettre dans Apple Maps comme un territoire indépendant, ça n'appartient pas à la France. Vous voyez, c'est juste pour mettre des choses en perspective. Il est toujours facile de dire « Oh, les méchants Russes qui pensent que la Crimée, c'est à eux ». Et encore une fois, je fais pas de géopolitique. Je suis le premier à penser que la Russie n'a pas la Crimée. Mais j'essaie de me mettre d'un point de vue russe. Et que les Russes attendent qu'Apple suive, finalement, les lois et leur manière de voir. Donc, aujourd'hui, le choix des entreprises, c'est soit je me retire d'un pays... soit je fais ce que le pays me dit de faire. Mais du coup, effectivement, ça entache quand même pas mal la réputation d'Apple, notamment qu'il y a quand même un petit peu ce vernis marketing Alors attention, Apple, c'est pas des libristes, hein, c'est même très très loin de ça, mais Apple a souvent pris parti pour la liberté d'expression, la liberté individuelle, la protection des données, etc. Mais on voit qu'ils sont rattrapés par le réel politique et c'est pas simple. C'est pas simple pour ce genre d'entreprise. Attention, hein, qu'on me mette pas dans les commentaires. Ouais, Jérôme, il pense que la Crimée, machin. Non, 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 non. Sortez pas les phrases de leur contexte. Je pense qu'Apple a tort de faire ça. Après, c'est pas facile pour Apple. C'est pas facile, c'est pas simple comme histoire. Tim Cook, alors il n'a pas encore réagi sur le sujet, mais il avait dit en 2017, quand on va dans un pays et qu'on participe au marché de ce pays, nous sommes sujets à des lois et des régulations de ce pays. Voilà, c'est comme ça. Ils sont pas incorruptibles, ils sont juste chers. Clairement, clairement, c'est Apple. News suivante. On va parler un petit peu de Twitter. Twitter, je crois que c'est avant-hier ou avant-avant-hier, a annoncé qu'ils allaient supprimer tous les anciens comptes inactifs. Toute personne qui n'active pas son tweet, qui n'a pas activé son tweet dans les 6 derniers mois, risque d'avoir son compte effacé. Pourquoi Twitter fait ça? Et c'est une bonne chose, avant que vous vous rebelliez, c'est une bonne chose. C'est, il faut nettoyer Twitter et notamment rendre certains comptes squattés, les remettre en liberté. Peut-être que vous, il y a un compte que vous visez, un compte avec votre nom ou avec le nom de votre entreprise, qui est bêtement squatté par une tête d'œuf, qui fait rien depuis 4 ans sur Twitter. Il faut que il faut qu'on puisse récupérer ces comptes. Il faut refluidifier, en fait, Twitter. Mais depuis hier, quelques voix sont élevées, pas tellement contre le fait que Twitter va effacer ses comptes et les remettre à disposition, mais en disant, attention, il y a un problème en faisant ça trop vite. N'oublions pas les gens qui ne sont plus là et à la fois le devoir et le droit de mémoire. Certaines personnes, effectivement, utilisaient Twitter et sont maintenant décédées. Leurs proches veulent peut-être récupérer leurs tweets pour se remémorer la personne. Et ce qu'elle disait, c'est vrai que c'est quelque chose que je peux comprendre parce que pour avoir, et je pense que tout le monde, chacun d'entre vous connaît ça ou va connaître ça. Moi, il y a un certain nombre de personnes que je suis sur les réseaux sociaux, ou que je suivais plutôt sur les réseaux sociaux, qui sont décédées ces 10 dernières années. Je dis ça parce que hier, justement, j'ai commencé un petit peu un nettoyage sur Instagram des gens dont le compte n'est plus actif que je suivais toujours. Et voilà, je suis tombé sur des comptes d'amis que j'ai ou de relations ou de personnes que je connaissais qui sont décédées depuis. Et je peux pas les effacer. Et quelque part, je suis content que leur compte soit encore actif. Donc, Twitter a dit qu'il allait faire une pause sur ce grand nettoyage pour que les gens aient le temps. Et il y a déjà des services pour backuper, en fait, un compte Twitter qui serait inactif parce que la personne est décédée, pour que les gens puissent avoir un mémorial. Rockwell nous dit, c'est peut-être la volonté des proches, mais restons sérieux, il faut rester lucide, c'est un compte Twitter, il existe plein d'autres moments à se mémorer, faire un choix difficile. Je suis pas d'accord avec toi, Rockwell. Aujourd'hui, regarde-moi par exemple, on va prendre moi, ma vie sur les réseaux sociaux, ma vie internet, du fait de mon métier, est une partie importante de ce que je suis et de ce que je suis en train de faire sur Terre. Ce n'est pas qu'un petit compte Twitter, j'y exprime mon travail, j'y exprime mes créations, j'y exprime une partie de mes pensées, j'y exprime évidemment pas toute ma vie privée et tout ça, mais c'est quand même une partie importante. Aujourd'hui, après, je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait mon testament, faudrait peut-être que je m'y mette, mais peut-être que j'aimerais qu'il reste une trace de ça, j'en sais rien. J'ai pas vraiment réfléchi, mais voilà quoi. Je pense que en tout cas pour certaines personnes, ça peut être important que dans l'entourage qui reste. Donc c'est quand même une partie importante. Je dis pas que c'est la seule partie. J'en suis pas à dire qu'il faudrait qu'on mette sur nos tombes, nos comptes Twitter et nos hashtags sur les pierres tombales. Hein. J'en suis pas là. Mais qu'on le regrette ou pas, parce que ça c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, nos vies numériques sont une partie importante de nos vies. Donc voilà, Twitter a décidé de mettre un petit peu en pause son grand balayage. Jérôme, il est grand temps de t'y mettre. Merci de vos messages de soutien dans la chatroom. Vous me faites toujours plaisir, comme d'habitude. Il y en a qui seraient presque à souhaiter ma mort. Pour prendre ma place, vraiment. Non mais vraiment. on continue, et là vous allez moins rigoler, ceux qui ont des voitures, et on sait que vous les défendez farouchement, vos voitures. On en reparlera avec Guillaume. Ben là, justement, des caméras qui détectent si vous utilisez un téléphone portable au volant, ce n'est plus de la science-fiction. Et oui, les dangers de tenir, d'utiliser un smartphone au volant, on va même pas avoir de débat là-dessus. On sait que 10% des accidents corporels sont à cause de gens qui utilisent leur smartphone au volant, ce qui est un usage extrêmement dangereux en termes de vigilance, etc. Depuis 2003, en France, l'usage du mobile est interdit au volant. Il a fallu néanmoins attendre 2017 pour que cette infraction n'entre dans le champ de, la vidéo verbalisation. Et justement, en Australie, ils ont installé des caméras qui sont capables de détecter si vous utilisez un smartphone au volant ou pas. Alors, en Australie, les règles sont un petit peu différentes qu'en France. En Australie, interagir avec son smartphone n'est pas entièrement interdit. On peut, par exemple, entrer une adresse de destination dans Maps ou Waze, choisir une musique ou répondre à un appel. Mais à une condition, le téléphone doit être fixé au tableau de bord et non pas tenu à la main. Un détail que le système de reconnaissance d'image semble savoir gérer sans souci. Lui fonctionne 24 heures par 24, de jour comme de nuit, avec des caméras verticales qui aperçoivent à la volée ce qui se passe derrière votre planche de bord. Ils ont le premier jour, lors des premiers essais, une caméra a réussi à détecter 400 conducteurs en faute sur une seule journée. Je vous montre le type d'image que prend ce caméra. Alors voilà, ces deux personnes. Donc le passager est en train de tenir le volant pendant que l'autre et le conducteur est tranquillement en train de texter au volant. Super prudent les gars, absolument génial, une très bonne idée. Donc voilà, c'est une caméra comme vous le comprenez qui est placée à la verticale et qui prend ce type d'image. Et justement, en France, dans la nouvelle loi mobilité, si jamais ils mettent ces caméras en place, ça va être beaucoup plus sévère, parce qu'avec la nouvelle loi mobilité qui vient d'être votée au Parlement, une nouvelle sanction prévoit désormais le retrait immédiat du permis d'un conducteur pris le mobile à la main. La seule condition, c'est qu'il faut que vous soyez pris le mobile à la main et que vous y ayez commis une autre infraction, par exemple griller un stop avec un mobile à la main ou franchir une ligne blanche le mobile à la main. Et là, c'est retrait instantané, immédiat du permis. C'est n'importe quoi, ça fait un an que je regarde Naotech pendant que je roule, j'ai jamais eu de problème. Half-Life, tu arrêtes tout de suite de regarder, pas ta voiture au milieu de l'autoroute. Tu arrêtes tout de suite de regarder. Je rappelle que le Mug est une émission de radio, avec des gros guillemets, de radio filmée. C'est fait que pour que vous puissiez l'écouter en toute sérénité. Et de temps en temps, quand la situation le permet, donc j'interdis à ceux qui sont au volant de regarder l'image quand je montre quelque chose. Cette émission, elle est aussi bien faite pour être écoutée que regardée. Elle est aussi bien faite pour être en live qu'en replay. C'est parfois pas un équilibre facile à trouver, mais c'est le challenge qu'on s'impose de faire une émission qui soit équilibrée pour tout le monde. Et encore une fois, vous pouvez très bien ne faire que écouter cette émission. Donc voilà, j'interdis à tout conducteur qui nous écoute de nous regarder. De toute façon, je suis coiffé comme une merde ce matin. Et là, les trois quarts des mecs... Comment ça, il est coiffé comme une merde? Ah ouais, il est coiffé comme une merde. Ouais, non, mais je vous connais. C'est pas du pain et des jeux qu'il vous faut. C'est du sang et du drama. Ce qui est à peu près la même chose. Mais c'est un autre débat. Je m'égare et on continue sur l'article suivant. Les AirPods Pro. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des AirPods Pro. Eh ben, c'est juste pour vous dire que les AirPods Pro vont bien. Et ils vont très très bien. Ils dépassent toutes les attentes en matière de vente. C'est grâce à ma vidéo, hein, bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Bon, en même temps, ma vidéo marche bien. Hein. Moi, je suis content. Après, les gens achètent plus leurs AirPods chez Apple que chez Amazon, donc bon, on va dire qu'en affiliation, bah, mais bon, bref, je rentre dans des détails qui vous intéressent absolument pas. Eh bien, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Selon les sources issues de la chaîne d'approvisionnement, Apple aurait décidé de doubler la production d'AirPods Pro, passant de 1 million à 2 millions d'unités par mois. Donc, grosse, grosse demande d'AirPods Pro. La mauvaise nouvelle, c'est que les AirPods Pro, pour Noël, ça marchera pas. Les délais maintenant de livraison passent à janvier. On parle même du 2 janvier, 9 janvier avec gravure. Donc, bon, il y a une petite chance que Apple refournisse les stocks avant Noël. Mais si c'était votre bonne idée d'acheter des AirPods Pro à Noël pour vous ou pour quelqu'un, bah, il va falloir attendre un petit peu, hein, et vous mettre de la mie de pain dans les oreilles, moulées comme des AirPods, pour combler votre frustration. L'AirPods du pauvre, c'est sordide ce que je dis. C'est sordide, oubliez ce que je dis, ce n'est absolument pas drôle. On continue. Surtout que j'allais dire un autre truc pas drôle, c'est que quand je vois le prix de certaines imitations d'AirPods chez certains distributeurs que je ne donnerai pas, je pense que la mie de pain coûte plus cher que certaines imitations d'AirPods. Donc achetez-vous des imitations d'AirPods, à la limite. AirPods en stock à la Fnac d'Arty Boulanger. Méfie-toi quand même, Julien. Je dis ça, je dis rien. Mais peut-être qu'ils ont encore des stocks. Mais alors, ruez-vous. Parce qu'à mon avis, il n'y en a plus beaucoup des stocks. Ou aller chez Xiaomi. Bah effectivement, alors moi, je ne les ai pas testés, hein, les FreeBuds 3. Mais je fais juste une petite aparté là-dessus. Les tests que j'ai vus, ils disent c'est pas mal. Ça fait quand même pas comme les AirPods Pro en termes de réduction de bruit. Et il fallait s'y attendre un petit peu. C'est quand même un design ouvert. C'est pas un design fermé comme les AirPods Pro qui bouche les oreilles, enfin qui bouche les oreilles, qui va créer un mur entre les sons extérieurs. Et parce que on n'a pas trop cette sensation de boucher avec les AirPods Pro, c'est ce que je vous avais dit. Donc ça a l'air pas mal les FreeBuds, c'est ça, 3 de chez Xiaomi. En termes de réduction de bruit, c'est quand même pas au niveau des AirPods Pro. Je les ai pas testés encore une fois. Là, je me réfère à ce que j'ai écouté chez Brandon, chez d'autres YouTubers, j'ai plus les noms. Voilà. Pépé les a testés, c'est pas du tout la qualité des AirPods Pro qui était déjà pas au niveau des Sony M3. Oui, alors moi je l'ai dit aussi dans mon test, hein, les Sony M3 sont certainement meilleurs en termes de qualité d'écoute de son et même peut-être de réduction de bruit. Après, en termes de design, je suis pas d'accord. Design et ergonomie, pour moi, les AirPods Pro sont largement supérieurs aux Sony, ne serait-ce que par la taille de la boîte et la taille des écouteurs, qui fait que pour moi, et encore une fois, je dis pour moi, ça convient pas. Le design et la petitesse de la boîte est un facteur presque aussi important que la qualité du son pour moi dans ma manière que j'ai de trimballer mes écouteurs, en fait. Voilà, voilà. Ah, c'est Huawei, pas Xiaomi. Désolé, je mélange mes Chinois. Ce qui n'est pas, on dirait, une vieille blague de Michel Leb. Bref, on continue, on va parler d'intelligence artificielle et de Go, puisque le champion de Go qui avait affronté l'intelligence artificielle AlphaGo a décidé d'arrêter sa carrière. Il jette l'éponge et il est parti en pleurs. Il va aller jouer aux fléchettes dans des bars en buvant de la Guinness. Non, j'extrapole un petit peu. Mais en gros, le joueur sud-coréen Lee Sedol, qui s'était frotté au système d'intelligence artificielle lors d'une série de 5 matchs Epic a décidé de se retirer du circuit. Et c'est justement à cause de AlphaGo. Le joueur professionnel a pris sa retraite. L'intelligence artificielle est trop forte et ne pourra jamais être battue par un humain. Bref, gros coup de blues chez ce joueur de Go. Effectivement, c'est un petit peu le danger de mettre des intelligences artificielles. On le voit en ce moment au niveau gaming, puisque DeepMind est passé à StarCraft 2, a écrasé d'ailleurs ses adversaires humains. Mais on peut se mettre facilement à la place quand vous jouez contre l'intelligence artificielle de votre ordinateur, qui jusqu'ici sont pas hyper intelligents, qui vont souvent avoir des modes cheat pour vous battre. Si c'est trop dur que vous n'arrivez pas à battre l'ordinateur, en fait, c'est difficile de trouver le bon équilibre. Parce que quand vous mettez en mode trop facile l'ordinateur, ça vous intéresse pas, vous écrasez l'ordinateur. Quand c'est en mode trop dur, vous vous découragez et c'est imbattable. Il faut trouver le bon équilibre pour que le jeu reste fun, quoi. Et avoir de la satisfaction de battre l'ordinateur. Moi, je sais que les jeux où j'ai le plus de satisfaction, c'est, on va dire, les jeux modernes où je peux régler l'écrantage de difficulté selon là où j'en suis. C'est vrai que bien souvent, je pense à des jeux comme Civilization ou quoi que ce soit. Quand je mets en mode trop dur, les débuts sont vraiment difficiles et je me décourage. Mais ce type de jeu, il y a un moment où ça bascule, où là, ça devient trop facile et on a presque plus envie de terminer la partie. Moi, je sais que c'est à ces moments-là, j'aime bien les jeux qui me permettent de recranter et de redonner un coup de fouet à l'intelligence de l'ordinateur, quoi. Florian Timfried, je mélange mes chinois, Jérôme 2019. Celle-là, on va pas en faire un t-shirt, hein, j'en suis pas très fier. En tout cas, pour le jeu de Go, alors tout le monde n'est pas d'accord. D'autres joueurs humains disent au contraire, l'intelligence artificielle qui nous bat tous maintenant, nous challenge et va peut-être nous pousser à sortir un peu d'un jeu qui était peut-être devenu un petit peu conformiste et essayer des nouvelles techniques, partir sur de nouveaux trucs. C'est bien, ça c'est le propre de l'esprit humain, c'est aussi d'être titillé par des challenges, et quand on lui dit c'est impossible, de toute façon l'ordinateur te battra toujours, les ordinateurs vont régner sur le monde, les Terminators vont tous vous exterminer, il n'y a rien à faire. On a quand même une part de combativité, hein, qui va nous faire téléporter dans le futur, dans le passé, des trucs pour avoir un chef de la résistance, etc. C'est un débat complexe. C'est comme les échecs, une suite de combinaisons, là-dessus le cerveau humain est limité. Oui, mais après, il y a la psychologie humaine, il y a la combativité humaine, peut-être que ça va nous pousser à créer d'autres jeux aussi, où on sera plus fort que les intelligences artificielles, avec des variables qui sont moins des calculs. C'est vrai que le jeu de Go, c'est un peu comme les jeux d'échecs, en quand même plus compliqué, puisque il y a, je crois, 10-32 combinaisons. Les possibilités s'élèvent à 10-170, bien plus élevé que les échecs, qui est à 10-120, exposant 120. Donc effectivement, mais quelque part, tu as raison, le jeu de Go reste un jeu de calcul de possibilités. Il y a des jeux, dans les jeux humains, où il y a une partie qui n'est pas basée sur les probabilités. Tout est calcul. Oui, plus ou moins. Il y a une part de psychologie aussi. Quelque part, si on voulait vraiment qu'une intelligence artificielle affronte un humain, il faudrait, si on voulait vraiment faire, que l'intelligence artificielle ait une forme de sensibilité. Sensibilité, parce que ça fait partie du plaisir du jeu. Il suffit d'avoir joué au poker pour comprendre ça. Il y a une partie du jeu de poker qui est une partie qui n'a rien à voir avec tes cartes, qui n'a rien à voir avec les jeux, qui n'a rien à voir avec le fait de compter les cartes. Il y a une partie psychologique et c'est presque un jeu par-dessus le jeu. Et ça, pour l'instant, les intelligences artificielles sont extrêmement limitées. Les jeux à boire. Là, et à mon avis, les jeux à boire au beer pong, je suis pas sûr que les robots arrivent à quelque chose. Hein? En tant que cher champion de Air Pong 2003. Bref. Ouais, le bluff, la créativité humaine. Pour l'instant, bien évidemment, sur les puissances de calcul qu'un ordinateur... Mais les ordinateurs, les bouliers chinois nous battaient avant les ordinateurs. Mais après, il y a toute la part de créativité, le bluff, la tromperie, la ruse, le mensonge, la diplomatie, ce genre de choses. Aujourd'hui, les intelligences artificielles... hein ? Qu'est-ce que vous en pensez, les filles ? Ok, Google ? Elle s'est allumée, mais elle ne sait plus quoi dire, là. Hein ?
Et là, c'est le bug.
Eh ouais, c'est le bug. Et ben voilà, hein ? On a un exemple type du manque de sensibilité de ces intelligences. La triche, le flingue sous la table, ouais, tous ces trucs fun, quoi. Le bluff mène pas très loin au jeu de Go, c'est clair. C'est clair. Allez, on continue. Alors, attendez. Il faut que je choisisse si je vais faire tous mes derniers articles ou pas. Non, je vais en faire sauter un ou deux. Non, ça va être bon. Ça va être bon. Alors, justement, pourquoi une disquette vaut 7 000 $ hein, vous vous posez la question. Pourquoi cette disquette que je vais vous montrer vaut 7 000 $? Eh bien, c'est parce qu'elle a été signée par Steve Jobs. Et oui, une disquette version 6.0 du Macintosh System Tools signée par Steve Jobs. Alors, pourquoi ça vaut aussi cher? Il faut savoir que Steve Jobs n'aimait pas les autographes, a très souvent refusé de signer des autographes. Donc, les autographes authentiques de Steve Jobs sont extrêmement rares. Et d'ailleurs, dans la cotation des signatures les plus rares, Steve Jobs arrive en tête avec les signatures les mieux vendues au monde. Une signature de Steve Jobs a été vendue 50 000 €. Ensuite, vous avez Stephen Hopkins à 35 000 €, James Dean 21 000 €, Bruce Lee 14 000 € et Marilyn Monroe 13 000 €. Donc, c'est un peu l'indice de rareté de la signature. Combien vaut aujourd'hui une signature de Jérôme Kenborg de la chaîne Nowtech? Pas un clou du tout. Donc arrêtez de m'en demander. Encore moins les selfies, ça vaut rien du tout. Un bon petit vieux Photoshop et chacun a son selfie. Donc arrêtez de m'en demander. Même sa signature est marketée, tout à fait. Mais même la signature de Florian Timfrit vaut plus cher que la mienne. Hein ? C'était pas sympa de dire « Désolé hein, pour tous ceux que à qui j'ai déclenché le Google. Vous le saurez maintenant dans l'émission, il faut désactiver vos assistants personnels. » Non, mais je suis désolé, là, c'était pour la blague, oh là là, oh là là. Mais vous voyez, il y a un côté quand même intrusif que quelqu'un à distance puisse déclencher un assistant personnel chez vous. Retenons bien la leçon. tu m'offres 12 milliards pour ton autographe. Le truc, Tini, c'est que tu peux m'offrir 12 milliards de molécules d'air. Tu n'as pas précisé 12 milliards de quoi. Ce live pose beaucoup de questions et n'apporte pas beaucoup de réponses. Effectivement. Et on termine avec un petit peu la news what the fuck du jour, mais qui est bien dans l'air du temps. Un hôtel japonais propose des nuits à 1 $. Waouh, génial! Ça vaut pas cher. Et il y a une contrepartie. Et ouais, hein? Si c'est gratuit, c'est toi le produit. On n'a jamais été aussi proche, même si c'est pas complètement gratuit. Mais à 1 $ la nuit, eh bien, il va falloir quand même que vous donniez quelque chose en échange. Et ce quelque chose en échange, c'est votre intimité, puisque vous acceptez d'être filmé 24 heures sur 24 dans l'hôtel. Donc, zéro intimité. Le hôtel va faire un business model à partir d'une chaîne YouTube où toutes les chambres sont diffusées 24 heures sur 24 et commentées par un commentateur qui dit « Ah, et là, Monsieur Kenborg est en train de plier son caleçon. Ah, c'est un pliage à l'européenne, effectivement, très, très intéressant. » Voilà, il y a des des gens qui regardent ça. Ça peut surprendre, mais moi, plus rien ne me surprend. Et la chaîne arrivera justement, lorsqu'elle aura atteint les 4000 heures visionnées, l'hôtel pourra alors monétiser le contenu en plaçant de la publicité, ce qui permettra de rattraper un petit peu. Il va falloir qu'il fasse beaucoup de vues, hein, pour rattraper le prix des chambres, hein, quand même. Alors, il y a quand même trois règles, hein, pour que vous ayez un minimum d'intimité. Vous pouvez passer vos appels téléphoniques dans un endroit privé de la chambre, qui n'est pas filmé, pas enregistré. La salle de bain n'est pas dans le champ de la caméra, donc on vous verra pas dans la salle de bain. Et vous pouvez choisir à quel moment vous éteignez les lumières. Les caméras vont continuer à filmer, elles ne sont pas infrarouges, mais vous pouvez quand même éteindre les lumières. Donc, effectivement, il est conseillé de ne pas faire crac-crac, hein, dans la chambre d'hôtel. Ce à quoi, justement, je pense que certains exhibitions, là, c'est du pain béni, cette histoire. Je préfère aller chez l'habitant, c'est gratuit. Hein, comme dit le vieux proverbe, si tu veux garder tes chiottes propres, va faire caca chez le voisin. Désolé pour ceux qui prennent leur petit-déj, hein. Si tu fais crac-crac, ils perdent leur monétisation. Ouais, je pense qu'il va rapidement y avoir des débordements, hein, de ce genre d'idée. Hein. À la limite, pour les troller, oui. Love Story, le retour, bah, c'est exactement le même principe. Moi, je trouve... Alors, bien évidemment, en fait, c'est de la pub qui fait. Le mec, son hôtel marchait pas bien, hein, il le dit, hein, d'ailleurs. C'était un hôtel qui avait beaucoup de mal... et qui a trouvé ça pour faire un coup de com. Maintenant, on va avoir des influenceurs. Vous allez voir. Prends les petits paris. Les influenceurs qui vont aller au Japon rien que pour aller dans cette chambre à 1$ et se faire filmer pendant 24 heures. Il est malin, hein, le mec qui a fait ça. Il a compris l'air du temps, hein, aussi. Non, c'est malin. Et soyez francs, vous le regardiez, Love Story ? Moi, j'avoue que je... Alors, en fait, j'ai pas regardé Love Story. J'ai regardé l'émission sur MTV, la toute première émission de Real TV, The Real World. Je regardais, mais j'ai pas regardé le Loft. C'est où ça? C'est au Japon. Le Japon, c'est une île qui est à droite de la Chine. Si tu prends une carte type profil de je sais pas quoi. L'air du temps sent très mauvais quand même. Eh. À quelle ville? À Fukuoka, je crois, ou un truc comme ça. Voilà, le lien de l'article, Samuel vous l'a mis. Comme ça, vous allez pouvoir aller vous éclater au Japon. Et c'est la fin des news ce matin, mais avant de passer à la tartine, et je vous conseille de rester pour la tartine, on va avoir un grand débat sur le Black Friday, est-ce qu'il faut arrêter le Black Friday ou pas, mais avant, justement, je voudrais parler, vous allez voir, hein, les contradictions ce matin, puisqu'on va parler de nos sponsors, on va d'abord commencer par notre sponsor traditionnel et régulier, et on les remercie d'ailleurs énormément pour ça, hein, parce que grâce à leur sponsoring de l'émission, ça nous permet de faire tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, et ces sponsors, ils sont derrière moi tous les matins. C'est Shadow, avec le Shadow PC, vous pouvez gagner un Shadow PC pour l'essayer pendant la durée d'un mois, vous pouvez en gagner un toutes les semaines, et le tirage au sort c'est vendredi, donc demain, donc je vous conseille de jouer aujourd'hui, il suffit de faire un tweet, il suffit d'abord de suivre le Twitter de Shadow, Shadow France, Shadow _ France, et ensuite de composer un tweet nous expliquant pourquoi vous voulez gagner ce Shadow PC, pour jouer à quel jeu, ou utiliser quelle application, et dedans vous mettez bien les hashtags, hashtag le mug Nowtech, hashtag Shadow PC, et comme ça, vous serez dans le listing pour le tirage au sort demain. Bonne chance à tous. Et je voulais parler de notre deuxième sponsor en cette semaine de Black Friday. Nous avons choisi, parce qu'effectivement, ça a été quand même une discussion, parce qu'on n'accepte pas n'importe quel sponsor, et nous avons décidé effectivement de travailler avec les gens de chez Deal Labs. Je montre Deal Labs pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un site communautaire de bonnes affaires. Comme vous l'expliquaient Guillaume et Marion, mais que je réexplique, le principe, c'est des bonnes affaires et la communauté upvote. Vous voyez ces petites températures. Là, par exemple, je vais upvoter sur l'Apple Watch série 5. Elle est déjà à 335 degrés et je rajoute un degré supplémentaire. Bah non, ça n'a pas influé. Il doit y avoir beaucoup... Ah si, hop, faut peut-être que je reclique. Voilà, c'est passé à 336 degrés. Je peux upvoter pour avoir des plans plus ou moins hot. Donc, c'est hyper intéressant. Moi, comme... est-ce que je peux vous le montrer? Oui. Les deals sauvegardés. Je ne suis pas encore familier avec tout, mais je m'étais mis des notifications. Est-ce qu'elles sont là-dedans? Voilà. Dans mes alertes, j'ai mis des alertes, par exemple, sur Apple, dès que des plans deviennent hyper hot sur Apple. Donc là, vous voyez le smartphone iPhone 11 sur Amazon à 667 euros. Donc, il est passé en super hot, 667 degrés. Pareil, les AirPods Pro... Ah ouais, il y a une bonne offre là chez waouh, pas mal. 251 euros les AirPods Pro. Voilà, ça vous permet vraiment d'avoir des veilles super techniques sur des bonnes affaires. Et en plus, en cette semaine de Black Friday, eh bien, nos amis de D-Labs ont décidé aussi de vous faire des cadeaux, tout ça dans un jeu concours. Pour le jeu concours, c'est très très simple. Vous allez cliquer dans le lien qui est sous cette vidéo, sous le replay de ce live. Ça vous amènera un jeu concours où vous pouvez doubler vos chances de gagner. Et pour ça, il faut vous connecter avec votre propre compte D-Labs pour doubler vos chances de gagner. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Eh ben, des AirPods Pro, un casque Bose 700 et une enceinte Sonos SL. Donc, bonne chance à tous. Voilà. Est-ce que dans la chatroom, il y en a qui utilisaient déjà D-Labs? Le tirage au sort sera quand? Je crois que le jeu s'arrête demain. Hein. Donc, il faut jouer jusqu'à demain. Et le tirage au sort, ça sera rapidement après. Hein. Mais c'est pas nous qui organisons le tirage au sort, c'est les gens de chez Deal Labs. Donc j'avoue que j'ai pas retenu tous ces détails-là. Jérôme n'avance pas trop vers la caméra, ça pompe. Oui, surtout que j'ai pas encore mis à jour le firmware. Il paraît d'ailleurs que le nouvel autofocus des GH5 marche super bien. On essaiera ça. Oui, j'utilise très souvent. Ouais. Vous êtes déjà pas mal à utiliser Deal Labs. Hein. Mais c'est un peu ce dont je me suis aperçu. Ça me conforte dans le choix que j'ai fait de travailler avec Deal Labs, c'est que je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs avec eux que je trouve intéressantes. Voilà, en tout cas, on les remercie de soutenir l'émission en cette semaine de Black Friday et ça va être justement le sujet de la tartine, le débat avec la chatroom ce matin. Le Black Friday, faut-il l'arrêter ou non? Et c'est tout de suite dans la tartine. Et c'est la tartine de Jérôme ce matin et on va parler effectivement du Black Friday. Faut-il Black Friday ou faut-il Black Friday? La question se pose, est-ce qu'on se dirige vers une interdiction du Black Friday en France? En tout cas, c'est discuté puisque effectivement, il y a eu un projet de loi relatif d'ailleurs à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Un amendement qui a été adopté par la Commission du Développement Durable. Alors attention, hein, maintenant il faut que ça passe par toutes les... C'est pas une loi encore, hein. C'est des propositions visant à interdire le Black Friday. Effectivement, certains ministres et certains politiques sont vent debout contre le Black Friday. Elisabeth Borne a déclaré sur le plateau de BFM TV que le Black Friday entraînait une frénésie de consommation avec des publicités, des remises qui incitent le public à acheter des produits dont ils n'ont pas forcément besoin et qu'il s'agit d'une opération à la gloire du consumérisme venue de l'étranger. qui utilise le flou encadrant les promotions pour contourner de manière manifeste la législation encadrant les soldes. Et bien évidemment, cela représente un bilan environnemental désastreux. C'est un petit peu le message que je vous mettais en début de ma vidéo de Black Friday. Je suis un peu plus nuancé que Madame Bateau, personnellement, que Delphine Bateau, dans le sens où je crois que je commence à développer des anticorps contre un certain type de news. Peut-être parce que je fais des news tous les matins. Et dès qu'il y a Amazon, je sais qu'en ce moment, Amazon, Apple et tout, c'est tout de suite. C'est c'est le gros méchant, trouvons un truc. Et il y a un truc qui m'a fait tilter dans sa phrase, une opération à la gloire du consumérisme venu de l'étranger. Désolé, Madame Bateau, mais moi, je trouve que votre phrase, elle a un petit relent de je ne sais quoi, mais qui pue un peu du cul, quand même. Ce côté, ces salauds d'Américains qui viennent faire du business en France, les pauvres petits commerçants français qui n'arrivent même plus à faire leurs soldes correctement à cause du grand méchant américain. Attention, je suis pas en train de défendre Amazon. J'essaye juste de remettre les choses en place et d'éviter de tomber dans des manichéismes à la con. Quand on voit l'inertie, et ça, je peux vous parler de l'intérieur, l'inertie de certains réseaux de distribution français qui se bougent pas le cul et qui sont là à faire des réunions. Oh là là, Amazon, ils nous ont encore bouffé des parts de marché. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va faire du lobbying, hein. On va aller faire du lobby. Et là, t'arrives, tu leur dis, les mecs, modernisez votre site internet, là, par exemple, renforcez l'affiliation, tu vois, pour dynamiser la force de vente, ce genre de truc. Vous pouvez pas investir. Non. Nous, on va faire du lobbying, hein. Parce que, de toute façon, c'est à cause d'Amazon, tout ça. Voilà, c'est juste pour vous dire un petit peu l'ambiance que je ressens actuelle dans la distribution française. C'est que tout est de la faute d'Amazon. Et que, oh là là, on peut plus faire de soldes correctement. C'est à cause du Black Friday d'Amazon. Je trouve que le raccourci est un peu facile. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'Amazon, c'est des anges. Je ne suis pas en train de dire, puisque j'ai bien mis un message dans ma vidéo de prévention, que le Black Friday peut avoir des effets, mais j'ai envie de l'étendre à toutes les soldes. C'est là où je dis, si on tape sur le Black Friday, qu'on interdit le Black Friday, et qu'on continue à avoir des lois aussi permissives sur les soldes, là, désolé, mais c'est presque du racisme pur et dur, anti-américain, anti-Black Friday, qu'on est en train de faire. Il y a un problème sur les lois encadrant les soldes. On a des espèces de soldes perpétuels, et ça, je suis d'accord. Ce côté solde perpétuel pousse au consumérisme et engendre un phénomène qui est désastreux pour l'écologie, qui est de la surconsommation et acheter des choses dont on n'a pas besoin et des envies qu'on n'aurait même pas eues si on n'était pas conditionné par le « vite, 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 il faut acheter parce que demain, ça sera fini ». Moi, je suis pour qu'on revienne sur des lois dures sur les soldes, qu'elles soient encadrées, que ça soit une maximum deux fois par an, mais qu'on arrête avec les ventes privées, les machins. On est bombardé toute l'année, quoi. Et après, discrimination. Je suis allé un peu loin avec le mot racisme. Merci, Vaya, de me modérer. Après, je dirais une dernière chose. Je vais prendre les avis de la chatroom ensuite. C'est moi, hein. J'aime pas beaucoup que l'État me dise ce que je dois faire. Il a peut-être raison. Ils ont peut-être raison. C'est peut-être un truc sur le consumérisme. Mais j'ai pas envie, disons que j'ai pas envie d'habiter dans un pays, et je trouve que la France le fait trop, qui me dit exactement ce que je dois faire, comment je dois m'habiller, comment je dois acheter les choses. Ça va m'agacer. Ça m'agace. Si je veux diminuer mon empreinte carbone, si je veux être plus respectueux de la nature, bien sûr qu'un certain nombre de lois doit encadrer ma manière de vivre, mais pas trop. Pas trop parce que ça va vraiment m'agacer. Je déteste avoir quelqu'un au-dessus sur mon épaule qui me dit ce que je dois faire. C'est mon caractère. Et Encore une fois, hein, ne m'accusez pas de néolibéral extrême. Hein. Je suis pour la législation et qu'on m'interdise de conduire une bagnole au charbon de bois qui polluerait tout le monde et tout ça. Je suis pour les interdictions. Mais qu'on vienne à me dire, t'as pas, voilà, on va interdire les Black Friday parce que hein, les pauvres Français un peu concons, hein, après ils achèteraient un peu tout et n'importe quoi. Hein. Et oh, on a le droit de décider aussi par nous-mêmes quand même un petit peu. Enfin bon, bref, ça c'est un avis personnel. Alors qu'est-ce que vous en pensez un petit peu la chatroom? Tu as entièrement raison, Jérôme. J'œuvre pour deux marques tech. On vend très bien sans forcément passer par Amazon, Insta plus site dynamique et communauté. Tout à fait. La concurrence. Alors attention, je sais qu'Amazon fait de la concurrence déloyale. Je vais pas parler du côté des concurrences déloyales d'Amazon. Mais Amazon fait aussi de la concurrence loyale. Amazon a fait bouger les lignes. Et il y a des distributeurs français qui devraient se bouger le cul au lieu de ronchonner dans leur coin. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Oui, mais on va te dire que la France veut imposer son modèle et pourquoi pas le modèle luxembourgeois. Ouais, ouais, non, mais je sais, c'est des débats complexes. La FNAC utilise aussi des techniques un peu limites pour faire des promotions. Ça, c'est le truc que je disais d'ailleurs à un distributeur hier, qui était très virulent, anti-Amazon, et qui était là, oui, mais Amazon, ils payent pas leurs impôts, machin, etc. Ce qui est certainement pas faux, et c'est des choses sur lesquelles il faut légiférer. Mais par contre, moi, ce que je disais, il y a quand même des problèmes sur la distribution en général. Ce que vous saviez peut-être pas, mais moi, je le sais parce que je suis les news photo. B&H, qui est la plus grande chaîne de distribution photo aux États-Unis, eux aussi, là, ils sont en train de se faire choper, genre, t'as pas payé tes impôts, etc. La distribution dans son ensemble a des problèmes, tant au niveau écologique qu'au niveau de concurrence loyale. Les sites marchands font des marges très faibles, l'optimisation fiscale max et le fait que Amazon ne marche pas quasi fait qu'on ne peut pas les concurrencer. Je sais pas. En fait, c'est ce qui fait gagner le plus d'argent à Amazon, c'est pas tant la défiscalisation, mais c'est plutôt, je cherche le mot, le cash flow. De payer les fournisseurs après que t'aies payé et faire travailler l'argent pendant le laps de temps leur rapporte énormément. Oui, Amazon, en fait, gagne beaucoup d'argent parce qu'ils sont énormes. Mais on retombe un petit peu dans les vieux débats, les grandes surfaces tuent les petits commerces, etc. D'une certaine façon, oui, il faut faire attention. Il faut légiférer. Et je suis pour qu'on légifère pour limiter l'action d'Amazon. Mais je suis aussi pour la concurrence et l'évolution de la distribution. Nos manières de consommer ont changé. Amazon l'a compris avant les autres. Amazon, d'un point de vue clientèle, je parle d'un point de vue clientèle. Amazon a le meilleur service clientèle que j'ai jamais rencontré de ma vie. Et ça aussi, c'est une des raisons de leur réussite. Donc, effectivement, on peut dire Amazon est agressif, il tue les marchés, mais c'est caché aussi le fait que Amazon a compris plein de choses, a optimisé les performances de son site et les optimise tous les jours avec des A/B testing et tout ça, a un service clientèle au tip top, ce que vous avez rarement chez des distributeurs. Donc moi, ce que j'ai peur dans cet anti-amazonisme, qu'il y a, c'est que on en profite pour tous les mauvais sites disent ah, on va se débarrasser d'Amazon comme ça, on va continuer à faire du business comme des gros porcs, on en ayant rien à foutre de nos clients, etc. Vous voyez, il faut pas tomber d'un extrême à l'autre. C'est plus vrai depuis un moment. Écoute, moi, pour l'instant, j'ai que des bonnes expériences avec le service après-vente d'Amazon. Les produits tech viennent de Chine, donc que ça soit vendu par un site américain ou français, what? Ouais, c'est pas aussi simple que ça. Ça crée, ça fait quand même des emplois, hein, la distribution. C'est... Moi, ce que je vous dis juste, encore une fois, l'idée, c'est pas d'être team Amazon ou team anti-Amazon. C'est ça qui m'énerve en ce moment. Faut être très... je suis team caca ou je suis team pipi. Sinon, je ne suis pas défini. Non, je suis désolé, moi je suis team pipi caca. Je vois des bonnes choses dans Amazon, je vois des mauvaises choses dans Amazon. Et je fais mon avis à partir de ça. Mais et je suis le premier à dire qu'il faut être extrêmement vigilant avec les pratiques d'Amazon, parce qu'elles préfigurent effectivement les pratiques du futur. Mais je suis le premier à dire aussi, c'est un peu facile de tout mettre sur le dos d'Amazon et s'attaquer spécifiquement au Black Friday, alors qu'à mon avis, le problème de pollution, le problème de perte d'emploi, le problème de compétitivité vient d'un bordel sans nom encadrant les lois sur les soldes en France. Voilà. Je suis team pipi caca, Jérôme Kenborg 2019. Ouais, ça, on va éviter d'en faire un t-shirt aussi. Elle savait, mais hyponomie, je le sais, je sais comment fonctionne Amazon. Moi, je raisonne en tant que client. Je m'en fous, en fait, de qui me répond. Je veux juste qu'il y ait un service après-vente qui me réponde. Qui reprennent mon produit s'il y a un dysfonctionnement, qui ne me fassent pas faire des gesticulations, aller à la poste avec des renvois. Puis, parce que moi, ça a été ça, la dernière fois que j'ai essayé de renvoyer un produit défectueux à quelqu'un, à un distributeur, il fallait limite que je paye la poste moi-même, quoi. Bref. Problème de solde, des problèmes économiques globaux. Après, et là, je suis complètement d'accord avec toi, Aura France. Je pense que quand j'entends tout ce débat autour du Black Friday, et des gens sont venus mettre des commentaires sur ma vidéo, le Black Friday, c'est le mal, le consumérisme, et tout ça. Il y a un moment, on arrive à des problèmes économiques et politiques. Et le débat, en fait, est complètement stérile. C'est-à-dire que de dire qu'une opération de solde est ultra-consumérisme, il y a un moment, c'est l'économie capitaliste dans laquelle on est qu'il faut remettre en cause. Et là, tu vois, moi, j'ai du respect pour les gens qui pratiquent un véritable anti-capitalisme. Parce que à la limite, là, ça se tient. Ce qui m'énerve le plus, c'est les bobos, dont je fais partie, qui vont être là, « Oh là là !» Oh, ce Black Friday qui pollue la planète, mais qui derrière sont des gros porcs de capitalistes. moi aussi, hein, je suis un capitaliste. C'est pour ça que je me permets de dire les gros porcs de capitalistes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut avoir une cohérence intellectuelle. Je respecte quelqu'un qui est à fond dans l'écologie et qui met en pratique ce qu'il dit et qui a vraiment... Et pour moi, on ne peut pas être capitaliste et à fond... Le capitalisme et l'écologie, c'est un équilibre. Je ne dis pas que ça soit impossible, mais c'est un équilibre. Si on veut aller plus loin en écologie, il faut abandonner le capitalisme. C'est mon avis hein, personnel là-dessus. Ce que je ne supporte pas, c'est le greenwashing. Et en ce moment, on en a trop. Les gens qui viennent te dire « Oh là là, ton émission du matin, c'est du streaming ». Le streaming, ça tue la planète. C'est mal ce que tu fais. Et qui derrière va dire, putain, j'ai téléchargé les 3 épisodes de The Mandalorian. Mec, ta cohérence, la cohérence. Sois cohérent. À la limite, quelqu'un qui me dit, je regarde plus la télé, je regarde plus Internet, je n'utilise pas Internet parce que le streaming, c'est mal. Là, il y a une cohérence par rapport à ce qu'il me dit. Mais quelqu'un qui va venir me chier dans les bottes, parce que on fait du streaming et que maintenant, pour vendre du clic, on fait plein d'articles sur le streaming, c'est mal, ça pollue plus que les bateaux, ou je sais plus ce qu'on m'a sorti là l'autre jour, ce qui est faux d'ailleurs. C'est du greenwashing. Et je suis à fond pour la préservation de la planète, les empreintes carbone, et c'est quelque chose dont je veux parler de plus en plus sur la chaîne. Mais le greenwashing, ça m'énerve. Sire, on en a trop, on en a gros. Le capitalisme, est bon à condition d'être régulé, le problème. Oui, oui, non, mais tout à fait. Je ne suis pas d'accord, il y a des nuances à faire. Très bien, je suis complètement d'accord que tu ne sois pas d'accord avec moi. Que penses-tu du Black Friday pour les prestations de services? Moi, j'ai même pas envie de m'exprimer sur le Black Friday. Qu'on m'apporte une loi cohérente encadrant les systèmes de soldes et de remises en France, et non pas cette espèce de solde permanent, vente privée, mon cul. Et là, je dis, ok, on discute. Mais là, reprocher à Amazon de faire les Black Friday en France, alors que c'est le bordel couvré ailleurs, pour moi, ça tient pas debout. Voilà. Rends-moi mes Tipeee. Ça y est, ça y est. Allez, il est 8h55, on va passer au camp de fac. C'était un débat intéressant. Je pense qu'on pourra peut-être le réavoir sur les Black Friday. Mais il est temps qu'on passe au camp de fac, le moment où vous allez pouvoir me poser des petites questions. Pas de questions Platinium ce matin, on va pouvoir attaquer directement vos questions. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Bientôt un Black Friday Years. Ouais, c'est un petit peu ça. Le mug bientôt en 18/9. Non. Aucun intérêt. Après, il faut jamais dire non. Hein. Il y a un an, je disais que je passerai pas nos vidéos en 18/9. On l'a fait. Disait qu'on passait pas nos émissions en 4K, on l'a fait. Donc, m'écoutez pas trop. Je raconte beaucoup de conneries. C'est ce qu'il faut retenir de ma réponse. Est-ce que j'ai vu de Irishman? Non, j'ai pas encore eu le temps. En plus de l'ambiance économique est pas folle, ils veulent interdire de vendre moins cher simplement par idéologie anti-USA. C'est un point de vue. Toujours pas de test pour le Lumix G90 de prévu? Non, pour l'instant, pas prévu. À partir de fin janvier, je pense que je reprendrai des tests d'appareils, mais on en a beaucoup en retard. Et pour l'instant, le G90 n'est pas prévu au programme. J'ai une question sur Shadow. Qu'est-ce qui empêche d'utiliser un Shadow pour des activités illégales comme le VPN? Il y a un côté déresponsabilisation qui m'interroge. Alors, qu'est-ce qui empêche? Alors, en fait... T'as exactement avec un Shadow les mêmes responsabilités que si t'avais un PC chez toi. Donc je vois pas ce qui t'interroge là-dessus. En gros, t'as les mêmes responsabilités. Si tu fais des activités illégales avec ton PC, que tu pirates des plans de la NASA ou d'un missile nucléaire russe avec ton Shadow PC, c'est pas Shadow qui va être responsable, c'est toi qui es responsable de ce que tu as sur ton Shadow PC. Donc Shadow aura les mêmes obligations avec un mandat, en gros, de fournir probablement l'accès à ton PC, au même titre que si des flics viennent chez toi, il leur faut un mandat pour avoir accès à ton PC. Voilà. En gros, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué. C'est exactement pareil. Il y a certaines petites différences. La seule chose que va monitorer vraiment Shadow, c'est si ton Shadow tourne 24 heures sur 24. Ils vont pas regarder ce que tu fais, mais ils vont quand même voir tes flux rentrants et sortants, surtout pour le mining, pour pas que tu puisses faire du Bitcoin avec un Shadow PC. Est-ce que je peux parler du Xiaomi Note 7? Non, je peux pas t'en parler, je l'ai pas testé. Bref, je l'ai pas testé, donc j'ai rien à dire dessus. Pour Noël, c'est quoi ton cadeau? Pas de mug le jour de Noël. C'est ça, mon cadeau. Dormir. On gueule après les soldes, mais si dans 2 heures, le dernier MacBook Pro 16 passe à 1000 euros, tout le monde va l'acheter sans se poser de questions sur la planète. Ouais, ouais. Je sais pas. Pas du tout sur le même produit. Je te demande juste ton ressenti. Quel produit t'a le plus bouleversé dans le quotidien? iPad ou... l'iPad. iPad est probablement mon kiff tech le plus grand de ces 10 dernières années. Ah, mais vraiment, l'iPad. iPad Pro. Tu as vu le problème avec The Theme, The Bunker d'Apple, la grosse polémique. Oui, j'ai vu, j'en ai pas parlé, je laissais un peu le sujet à Marion, mais elle l'a pas abordé hier. Ouais, j'ai vu, je vais pas re-résumer parce que sinon on va partir dans une longue explication. Il est 9h, je vais rester encore quelques minutes pour prendre des questions. Est-ce que tu savais qu'on ne peut pas mettre un écran déporté sur un G7? Car dès qu'on enregistre, il s'éteint. Sur le G7, oui, on peut. Sur le G7, c'est fort probable. Je ne sais plus sur le GH5, si je mets un écran déporté, je crois que le petit écran s'éteint. Ouais. Sur le Deal Labs, il y a une sacrée bonne affaire sur l'iPad. Eh bien, écoute, l'iPad, je ne l'ai pas testé. Enfin, c'est con, hein, je l'ai, mais je n'ai jamais eu le temps de vous faire le test sur l'iPad 2019. Je ne parle pas de l'iPad Pro. Mais en gros, je vais vous faire le test, hein, comme ça sera fait. Il est bien. Voilà, vous pouvez l'acheter, il n'est pas cher. Go. Si vous n'avez pas un iPad, c'est le bon moment. Tu sais quand le box U HDMI sera dispo? Écoute, ils m'ont pas craché le morceau chez Philips Hue. Pour l'instant, je crois qu'ils annoncent février, mais ils vont essayer de faire mieux. C'est tout ce que je peux te dire. À 285, l'iPad, ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Hein. Est-ce que tu feras une vidéo sur ce que tu as appris lors de ta masterclass photo? C'est pas prévu pour l'instant. C'était vraiment une activité pour nous. Peut-être qu'un jour, je vous montrerai les séries de photos qu'on a fait sur Instagram. Mais pour l'instant, voilà, c'était un moment... alors, ne croyez pas, on n'a pas fait des séries de photos intimes avec Marion. Hein, c'est pas ça. Mais quand je dis que c'était... attendez, bougez pas. J'ai une livraison. Bonjour. Attendez, j'ai un stylo. Hop. Je dois signer où ? Voilà. Ah non, c'est bon. Hop. Hop, de retour. Désolé, une petite livraison. Les livreurs n'ont pas de stylo. Quel tocard. Tu sais, j'aurais adoré que ça arrive en plein débat sur le Black Friday où je dis et cette livraison en outrance avec ces cartons, on en a plein les rues et c'est de la pollution. Et là, le livreur qui arrive. C'est même pas pour moi le paquet, c'est pour Karina en plus. Pff, en fait, je suis la secrétaire. C'est moi qui réceptionne les colis de Naotech pour tout le monde. Même les livreurs Amazon n'ont pas de stylo, quelle économie. Qu'est-ce qu'on vient de livrer? C'est ma vie privée et de Karina d'ailleurs. Je ne vais pas vous dire. Ça par exemple, c'est une signature de Jérôme qui va falloir de la thune. Pas mal, Olek. Pas mal, pas mal. Le Black Friday n'est pas la plus grande menace actuelle. Qu'il fasse en sorte de montrer une réelle volonté écologique, qu'il fasse des vrais sacrifices. Ouais, moi, c'est pour ça que ce qui commence à m'agacer en ce moment, dans les petites remarques qu'on me fait, oh là là, tu fais des vidéos sur YouTube, tu pollues. Je t'ai eu. C'est un peu ça, tu sais. J'imagine le mec sur son clavier. Ah ah, je t'ai eu. Tu fais du streaming, salaud. C'est ce côté brain, greenwashing, quoi. L'écologie est un problème global qu'il faut traiter avec des mesures beaucoup plus courageuses que de dire le streaming c'est mal et ça pollue la planète. Je pense qu'il y a plein de facteurs et qu'à un niveau strictement personnel, l'écologie demande un changement de vie plus important que des petits trucs de greenwashing à la bobo, là. Ah oui, maintenant j'utilise du vinaigre blanc pour mon ménage. Parce que... Oui, c'est bien, mais à côté, si tu prends ta bagnole pour aller faire tes courses alors que c'est même pas un kilomètre, ça n'a aucune cohérence. En fait, ce qui m'énerve dans le... Pourquoi mes lumières se baissent d'un coup ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah non, c'est la lumière dehors. Ce qui m'énerve dans le monde actuel... c'est que on prend des petites mesurettes, on fait la morale aux autres et on se remet pas en question fondamentalement. Et je trouve qu'au niveau politique, c'est un peu la même chose au niveau de l'écologie. Mais bon, voilà. Il est 9h05, il va falloir que je vous quitte. Moi, je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont des stylos. Alors, ce soir, il y a bien le jeudi VIP, le live qui est consacré aux contributeurs. Il sera un petit peu écourté parce que j'ai un rendez-vous à 15 minutes après. Donc, il sera un tout petit peu écourté. Mais je serai là ce soir. On fera d'ailleurs un petit bilan ce soir. On doit parler de certaines choses avec les contributeurs. Je vous ferai un petit peu un état des lieux de la chaîne. Donc, pour les contributeurs, rendez-vous ce soir à 18h. Et pour les autres, rendez-vous demain sur la chaîne principale. Ça sera donc le mug du vendredi, l'édition spéciale qui a lieu sur la chaîne principale. Donc, ne ratez pas, c'est sur la chaîne principale demain. Et c'est à 8h, comme d'habitude. Et, ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc hyper important. Il va y avoir un mug samedi. Exceptionnel, je vais même bosser le samedi. Eh bien, et je, par contre, ça sera pas sur les chaînes habituelles, puisque ça sera sur la chaîne Tech News and Test, qui fait un live de 24 heures. Moi, j'interviens deux fois dans le live, je sais plus exactement les heures, mais enfin, j'en sais une, c'est de 8h à 9h samedi matin, un mug exceptionnel, enfin un mug, voilà, sur la chaîne de Romain, et ça sera samedi matin. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Et on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde!